Dans la tribune de l'histoire de ce soir, le sultan et le roi soleil par Alain Decaux. Avec Jean Negroni, Robert Parti, Fernand Guillot, Jean Claudio, Michel Derville, réalisation de Georges Gravier.
Bonsoir, Alain Decaux. Ce soir, nous allons quitter la France pour y revenir parce que nous allons d'abord nous rendre au Maroc. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un livre est paru récemment de M. Younes Nekrouf qui s'intitule « Une amitié orageuse, Moulay Ismaïl et Louis XIV », livre publié chez Albin Michel. Nous avons choisi de traiter ce sujet parce que le livre est excellent, plein de révélations, il est allé aux sources et c'est important, mais aussi parce qu'il s'agit du plus singulier, peut-être des face-à-face, entre deux personnages hors mesure. Louis XIV, le roi soleil, et Moulay Ismaïl, descendant du prophète et qui fut l'unificateur et le véritable fondateur du Maroc moderne. C'est dans son palais de Meknès que nous allons rencontrer Moulay Ismaïl et ce souverain, un Français qui fut esclave à Meknès, l'a dépeint. Il est assez haut, mais de taille fort déliée, quoiqu'il paraisse assez gros à cause de ses habits. Son visage, qui est d'un châtain clair, est un peu long, et les traits en sont bien faits. Il porte une longue barbe qui est un peu fourchue. La résidence où nous pénétrons est magnifique, car dans chacun des palais du roi du Maroc, les parquets, les murs, les plafonds sont décorés de mosaïques et de marbre et les toits en pyramide sont recouverts d'étincelantes tuiles vertes. Partout, de l'eau, des bassins, des fontaines, des jets d'eau, et tout près de là s'élèvent les fameuses écuries, tout en piliers et portiques, qui peuvent recevoir 12 000 chevaux. Écoutez le sultan Moulay Ismaïl.
Je suis sûr que le roi de France est un homme à qui l'on peut se fier.
Je voudrais le croire, Seigneur.
Quoi, tu n'en es pas sûr?
Je remarque, Seigneur, que les Français n'ont cessé de pourchasser nos bateaux, de bombarder nos ports et de les affamer par le blocus.
Est-ce que nous nous gênons, nous, lorsque nos vaisseaux rencontrent les leurs pour les attaquer, les couler et nous emparer des équipages pour en faire des esclaves?
Nous n'aurons jamais autant d'esclaves francs au Maroc qu'ils n'ont d'esclaves de notre race en France.
Ce n'est pas là le problème. Ce que je ne comprends pas, c'est que le roi de France nous ait demandé la paix et que cependant qu'il envoyait un négociateur, il continuait à donner la chasse à nos corsaires avec une escadre de 2 vaisseaux, 3 frégates et un brûlot. Il y a là quelque chose qui m'échappe. Je ne comprends pas non plus pourquoi, ayant signé un traité avec moi, il refuse de le ratifier.
En fait, Seigneur, le roi de France n'a pas demandé la paix. Il faut relire sa lettre. Il veut bien t'accorder la paix que tu as demandée.
Je n'ai rien demandé du tout.
La vérité est que le roi de France a besoin de cette paix. Il voudrait que nous lui rendions les francs qui sont esclaves chez nous et il voudrait que ses vaisseaux puissent parcourir les mers en toute sécurité. Ce qui a raison du courage et de l'habileté de nos marins n'est pas du tout le cas.
Alors il me demande la paix.
Non, son orgueil le lui défend. Puis-je te relire la lettre du roi Louis XIV?
Je te le demande.
Très haut, très excellent et très puissant prince, notre très cher et bon ami, ayant été informé de la disposition où vous êtes, de traiter la paix avec nous...
Je ne suis dans aucune disposition.
Je continue, si tu le veux bien. Nous avons chargé le sieur de la Barre, capitaine de l'un des vaisseaux de guerre de l'escadre française que nous avons fait armer cette année pour aller devant Salé, de vous aller trouver pour en conclure le traité suivant les conditions contenues aux articles dont il est porteur. C'est pourquoi... Nous vous faisons cette lettre pour vous dire que nous souhaitons que vous donniez une entière créance à tout ce qu'il vous proposera de notre part sur ce point.
Je n'ai pas assez relu cette lettre quand elle m'a été envoyée. Sans cela, je n'aurais pas autorisé que l'on signe ce traité.
Mais tes représentants l'ont signé. Ces articles seront valables une année pour être prolongé pendant plusieurs autres lorsque l'ambassadeur que tu enverras au dit roi de France les lui aura présentés.
Ce sera toi, mon ambassadeur.
Oh, sois persuadé, Seigneur, que je mesure tout le prix que je dois attacher à la confiance dont tu me combles.
Il faudra que tu éclaircisses tout cela. Les Francs signent ce traité, et comme s'il n'existait pas, leur corsaire Jean Bart force l'un de nos vaisseaux à s'échouer sur la côte du Portugal et capture 103 Marocains, parmi lesquels plusieurs de mes amis qui se rendaient à la Mecque. Et dans le même temps, un autre bâtiment franc capture l'un de nos navires avec un équipage de 125 Marocains. Les deux équipages ont été aussitôt envoyés aux galères à Marseille. Et tu sais ce que c'est que ramer sur les galères du roi des Francs?
C'est abominable. 24 heures sur 24, ils sont enchaînés à leur banc. Ils sont mal nourris, vêtus de haillons. Et ils doivent, sous les coups de fouet, soulever des rames si lourdes que peu de gens survivent au bout de 3 ans.
Crois-tu que je n'y pense point? À nos frères qui rament sur les galères du roi des Francs. Au moins, les esclaves chrétiens qui sont ici se trouvent tous dans ma cité royale. Ils travaillent, certes. Ils ont aidé à construire mes palais, mais ils ont sujet de se louer de la vie que je leur fais. Je laisse même pratiquer leur religion et j'accepte ici des moines franciscains. Tandis que sur les galères du roi des Francs, un musulman n'a même pas le droit de prier. Sinon, il est battu 2 fois plus que les autres.
Pardonne mon audace, Seigneur. Mais connaissant tout cela, d'où vient que tu te fies tant à la parole du roi des Francs?
Parce qu'un si grand prince ne peut pas être un menteur. Il peut être dur, cruel. Moi-même, pour délivrer mon royaume des brigands, n'ai-je point dû les exterminer? Je n'ai accordé aucun merci à ceux qui se sont rebellés contre moi. Mais vois-tu, Mohamed, j'admire le roi des Francs depuis que je le connais mieux par les récits de mon neveu Moulay El Harbi. Il a voyagé 5 années en Europe. Il a vu Louis XIV. Il m'a raconté ses victoires sur les Espagnols, sur les Hollandais, sur l'empereur d'Autriche. Par lui, j'ai connu les batailles que ses armées avaient gagnées sur ses ennemis, les sièges auxquels ce grand roi a participé de sa personne. Je connais les qualités de son gouvernement, la sagesse de ses lois, la police de ses états, sa piété, son zèle religieux.
Le zèle d'un infidèle.
Et il vit dans l'erreur, mais il prie le même Dieu que moi. Ce qui me plaît aussi, Mohamed, c'est qu'il fait la guerre aux Espagnols, mes propres ennemis, et qu'il est l'allié du sultan de Turquie, un prince de notre religion.
Tu admires ce roi, et en même temps, tu ne me comprends pas.
Mais non. Je ne comprends pas qu'il ait souhaité engager des négociations et après qu'elles eussent abouti, qu'il ait refusé de ratifier le traité. C'est bien pourquoi tu vas partir, Mohamed Temim. Tu vas voir le roi des Francs. Et tu lui feras part de mon étonnement et en même temps tu lui proposeras mon amitié. J'ai écrit au roi Louis XIV dans ce sens. Une idée m'est venue qui assurément permettra entre nos deux royaumes une paix éternelle.
Une idée, Seigneur?
Oui. Je me suis souvenu de la lettre qu'écrivit le prophète Mahomet à l'empereur de Byzance, Héraclius, par laquelle il l'incitait à embrasser notre religion. Je vais faire la même proposition au roi Louis XIV.
Tu vas lui proposer de se convertir à l'islam?
Assurément. Peut-être, quand tu arriveras à Paris, le roi de France m'aura-t-il compris? Peut-être sera-t-il musulman? Tu as l'air sceptique.
Oh, je le suis, Seigneur.
C'était mon devoir de le lui demander. Tu pars sur le vaisseau du capitaine de là-bas?
Oui, Seigneur.
Puisqu'il a négocié le traité, il connaît ma position et il pourra t'assister dans tes négociations. Bon voyage, Mohamed. Et que Dieu te vienne en aide.
Mon nom est Lefèvre de la Barre. Je suis capitaine sur les vaisseaux du roi de France. Selon les ordres que j'avais reçus, j'ai pris à mon bord l'ambassadeur du très puissant et très excellent roi du Maroc, son excellence El Hadj Mohamed Temim, et celui qui était son adjoint, El Hadj Ali Manino. Pour ceux qui me liront, je dois préciser que sont appelés en pays musulman Al-Hajj ceux qui ont accompli le pèlerinage de la Mecque. Mohamed Temim, gouverneur de Tétouan, est un haut personnage qui peut se réclamer de la faveur du sultan Moulay Ismail. Ali Manino, son adjoint, est parent du roi et il a été gouverneur de Salé. Il porte d'autant plus d'intérêt à ce voyage qu'il est le père d'un jeune homme qui fut pris par le capitaine Jean Bart sur les côtes du Portugal et qui a déjà été envoyé ramer aux galères de Marseille. Deux secrétaires conseillers et quatre serviteurs complètent la mission du sultan. Nous avons quitté l'avant-port de Tétouan le 21 septembre 1681 et nous avons cinglé vers Brest. Après avoir fait relâche pendant 3 jours à Lisbonne, nous n'y sommes arrivés en raison du mauvais temps que le 16 octobre 1681. Homme d'un certain âge, l'ambassadeur Temim fut fort incommodé pendant la traversée, mais en homme d'honneur, il ne se plaignit pas. À Brest, dès qu'il fut reçu par le sieur Michel Bégon, intendant intérimaire de la marine, il lui fit savoir qu'il n'avait point de présent pour le roi de la part de son maître, parce que celui-ci n'avait pu en trouver d'assez considérable. Mais il lui présenta quelques animaux qu'il avait l'intention d'offrir à sa majesté en son nom propre, 4 autruches, 1 lion, 1 lionne et 1 tigresse. Cependant que j'écrivais à M. Colbert, M. Bégon faisait savoir que l'ambassadeur de l'empereur du Maroc attendait les ordres pour se rendre à la cour et qu'il demandait que le sieur de Raymond X, major de la marine du Levant, l'accompagnât jusqu'à la cour, car tous deux ont lié amitié et conversent en espagnol et en italien. Le 2 novembre, M. Colbert a fait connaître à M. Bégon ses instructions. L'ambassadeur devait d'abord montrer ses pouvoirs à lui, Bégon, ou au sieur de Raymond X, avant d'être acheminé vers Paris. Mais le dit ambassadeur manifesta sur ce point son désaccord.
Moi, Mohamed Temim, ambassadeur de mon maître, le très puissant Moulay Ismail, j'ai résolu de noter dans ce carnet tout ce que je verrai et entendrai dans le royaume des Francs. Je ne suis parti de Brest que le 4 décembre, comme disent les chrétiens. Ceci après avoir attendu 56 jours dans un froid et une humidité dont je ne pensais pas qu'il pût en exister de tel sur la terre que tu as faite. Mon voyage m'a conduit vers Paris en traversant Nantes, Angers, Blois, en un équipage que j'ai trouvé fort inconfortable. Il a duré plus de 3 semaines. Je dois convenir que l'on m'a fort bien reçu tout au long de ce cheminement.
L'ambassadeur arriva aux portes de la capitale le 27 décembre 1681, mais il dut attendre 3 jours dans une chambre d'auberge. J'ai su par les affaires étrangères que Sa Majesté ne voulut point qu'on lui fît d'entrée officielle. Ainsi, il entra dans Paris le 30 décembre 1681 avec les mêmes voitures de louage qui lui avaient servi dans le voyage. Il descendit à l'hôtel des ambassadeurs, où il fut logé pendant tout son séjour. Le lendemain, le sieur de Bonneuil, un traducteur des ambassadeurs, vint lui faire une visite de courtoisie de la part du roi. Le 4 janvier 1682, le même monsieur de Bonneuil vint prendre l'ambassadeur dans les carrosses du roi et de la reine pour le conduire à Saint-Germain-en-Laye à l'audience de Sa Majesté. Le roi Louis XIV reçut l'ambassadeur dans la chambre du trône. Il se découvrit, sans se lever. El-Hadj Mohamed Temim fit plusieurs révérences, présenta au roi les lettres de son maître Moulay Ismail et prononça en arabe une harangue que Pierre Dipi, français d'origine d'Alep, secrétaire interprète du roi, traduisit.
Empereur de France, Louis XIV, le plus grand de tous les empereurs et rois chrétiens qui ont été et qui seront. L'empereur mon maître, ayant entendu parler des grandes choses que votre majesté a faites dans l'Europe, comme d'avoir à la tête de ses armées conquis des royaumes, gagné un grand nombre de batailles, et, comme un lion, vaincu tous ses ennemis, portant partout la terreur et l'effroi au travers de toutes sortes de dangers, toutes ces grandes actions ont tant donné d'admiration et d'estime à l'empereur mon maître pour votre majesté, qu'il a cru qu'aux conquêtes de Sousse, de Fès, de Tafilet, de Maroc, de Rif, des Arbouzem, de Tétouan, de Salé et d'Elbzar, et à la gloire d'un grand nombre de batailles qui l'ont rendu le plus grand et le plus vaillant de l'Afrique, il fallait ajouter pour achever de le rendre content et glorieux, la paix avec votre majesté.
Sa majesté, le roi Louis XIV, parut content d'entendre pareil propos et prit la parole en ces termes.
Monsieur l'ambassadeur, tout ce que vous venez de dire ne peut que m'aller droit au cœur. J'espère que vous avez fait bon voyage et que votre séjour à notre royaume se déroulera le mieux du monde. Quant à moi, j'ai l'intention de chercher toutes les occasions de vous faire plaisir. Je nomme M. Colbert de Croissy, ministre des Affaires étrangères, et M. le marquis de Seignelay, secrétaire d'État à la Marine, pour écouter vos propositions. Mes officiers vous retiendront à dîner avec votre suite. Et je souhaite que vous fassiez bonne chère.
Le lendemain, 5 janvier, ont commencé les négociations annoncées par le roi. Je dus m'entretenir avec ces messieurs que l'on appelle Croissy et Seignelay, et je dus constater que ceux-ci ne me laissaient guère parler. Dès que je hasardais une observation, ils me coupaient la parole. Peu à peu, ils confectionnaient un traité qui devait avoir 20 articles, et chaque fois que j'avançais une contre-proposition, ils la rejetaient avec une indignation qui ne me parut pas feinte, mais comme venant de l'orgueil que le roi des Francs a si bien su communiquer à ses serviteurs. Je n'étais guère satisfait. Mais je dus constater que les ordres du roi étaient suivis. On voulait décidément me faire plaisir. On mit à ma disposition un carrosse de louage, et M. de Raymondis fut chargé de me conduire partout. Le 5 janvier, j'assistais à Saint-Germain, ainsi que le roi et toute la cour, à l'opéra d'Attis, dont je sus qu'un sieur Lully avait composé la musique, et le sieur Quinault écrit les paroles. D'ailleurs, je devais faire la connaissance de ce Quinault et de ce Lully le lendemain, et j'eus le plaisir de les féliciter quand on m'invita à voir le ballet Le Triomphe de l'Amour. On me conduisit admirer les eaux de Saint-Cloud. Je visitai Notre-Dame, une grande et belle mosquée, et je grimpai jusqu'en haut des tours pour voir le panorama de Paris. Je me rendis à l'Observatoire, au Louvre, au Gobelin, où je rencontrai un peintre du nom de Lebrun, auquel je n'eus pas de mal à faire compliment tant je trouvais merveilleux son talent. J'allai aussi à la bibliothèque du roi, où je dois convenir que je fus surpris du grand nombre de livres arabes qu'on me montra. J'allai encore aux Tuileries assister à l'exercice des mousquetaires, et je fus convié à un bal donné par son Altesse royale, le duc d'Orléans, frère du roi, que l'on appelle ici monsieur. À 1 heure après minuit, le dit monsieur m'a demandé si je ne commençais point à m'ennuyer et si je voulais m'en aller. Je lui ai répondu de cette sorte. Je serais bien puni, monseigneur, si vous me l'ordonniez. Je ne conçois rien de plus sensible que de quitter une si illustre et si belle compagnie.
Janvier 1682, le traité de paix fut signé par l'ambassadeur du Maroc et les deux plénipotentiaires français, non sans une altercation entre messieurs de Croissy et de Seignelay, ce dernier plus ancien en réception prétendant signer le premier et obtenant gain de cause. À la suite de la signature, l'ambassadeur fut invité au souper du roi.
Eh bien, monsieur l'ambassadeur, êtes-vous content?
Sire, je dois avouer à votre majesté que j'ai pleuré lorsque j'ai appris que je devais venir en France. Mais je sais maintenant que je pleurerai bien davantage quand je quitterai votre royaume.
Vous êtes le plus honnête homme du monde, monsieur l'ambassadeur. Et que dites-vous de Paris?
Je suis au désespoir.
Au désespoir?
Oui, car on ne me croira pas dans mon pays. Et il me sera impossible de le trouver mauvais, puisque moi-même, je n'aurais pas cru que tout ce qu'on m'a fait voir pouvait exister. Quand bien même 1000 personnes en auraient voulu soutenir la vérité.
Voilà qui est bien dit.
Si votre majesté me permet une confidence, je lui dirai que je note dans un carnet tout ce que je vois. J'ai donné un titre à ce carnet.
Peut-on connaître ce titre?
Je l'ai appelé le livre des miracles.
Ah, messieurs, vous conviendrez avec moi que cet ambassadeur a bien de l'esprit.
Au début de février, l'ambassadeur alla voir l'arsenal, visita les Invalides, passa toute une journée dans le château de Versailles où l'on achevait les derniers travaux. Il l'admira beaucoup et envia le roi quand il sut qu'il allait en faire sa résidence définitive dans quelques mois. Le 10 février 1682, Sa Majesté reçut en audience de congé l'ambassadeur du Maroc qui, après quelques révérences, prononça une nouvelle harangue.
Empereur de France, Louis XIV, le plus grand de tous les empereurs et rois chrétiens, qui n'ont jamais été et qui seront. Je m'en retourne après avoir obtenu une paix si souhaitée et si avantageuse à l'empereur mon maître, l'esprit rempli d'un nombre sans nombre de merveilles qui se confondent entre elles. Tout ce que j'en démêle fort distinctement, c'est que, comme tous les miracles du monde sont dans la France, ainsi, toutes les grandes qualités qui peuvent rendre un empereur accompli se trouvent dans votre majesté. Il ne m'appartient pas d'en parler. Je me contente d'admirer votre majesté et je me tais, en souhaitant que le ciel veuille donner un jour toute l'Afrique à l'empereur mon maître et à votre majesté toutes les autres parties du monde.
Voilà, monsieur l'ambassadeur, de belles et bonnes paroles. Je vous souhaite un bon voyage. Partez assuré de l'estime que je vous porte.
Le 23 février 1682, Monsieur de Bonneuil m'a porté les présents du roi Louis XIV. 2 lustres de cristal, 2 fusils, 1 paire de pistolets, 2 pendules, 1 montre enrichie de rubis et de diamants, 1 horloge, 2 montres à boîte d'or, 3 autres montres, plusieurs pièces de brocart, d'or et d'argent, et de drap écarlate. Un très beau tapis de 17 tonnes et demie. Un lit et 12 sièges. D'autres cadeaux furent portés à ceux de ma suite. En outre, M. de Bonneuil m'a remis une lettre du roi des Francs destinée à mon maître le sultan, ainsi que le texte du traité signé à Saint-Germain le 29 janvier 1682. Après quoi, je me mis en route pour Marseille, comme je l'avais demandé expressément. Car, dans cette ville, je voulais voir les galériens de notre pays, considérer leur infortune, leur prodiguer mes encouragements, et leur dire aussi l'espoir que le traité qui venait d'être signé leur permettait de concevoir une mise en liberté prochaine.
Eh bien, monsieur de la Barre, il paraît que le digne seigneur Temim veut passer par Marseille.
Oui, sire, il veut voir les galériens marocains.
Oh, c'est fort ennuyeux. Le traité que nous avons signé, lui en donne-t-il le droit?
Pas expressément, sire.
Vous qui connaissez cette affaire mieux que moi, vous me feriez plaisir en me résumant à grands traits ce qui est dit dans ce traité sur les prisonniers de nos deux pays.
L'article 6 stipule que tous les Français pris par nos ennemis et qui seront conduits dans les ports et terres de l'empereur du Maroc, seront mis aussitôt en liberté sans pouvoir être retenus comme esclaves. L'article 7 précise que tous les esclaves français qui se trouvent actuellement dans l'étendue du désert sous la domination de l'empereur du Maroc pourront être rachetés, moyennant 300 livres pièces.
L'empereur du Maroc est donc fondé à nous demander la réciproque.
C'est exact, sire.
Je vais donc donner des ordres à l'instant même pour que, surtout quand l'ambassadeur du Maroc sera à Marseille, on ne lui permet à aucun moment de rencontrer des galériens de son pays.
On ne pourra donc pas lui montrer les galères. C'est ce qu'il a demandé avant toute chose.
Il y a tant de galères à Marseille qu'il est impossible de les cacher à cet ambassadeur. Au contraire, il faudra les lui faire visiter afin qu'il prenne la conscience de ce qu'est la force de ma marine. Mais on en retirera au préalable tous les galériens marocains que l'on mettra en lieu sûr. Il est important que l'empereur du Maroc ne puisse obtenir aucune information du nombre d'esclaves de son pays qui sont sur mes galères. Vous devez savoir, monsieur de la Barre, que les rapports qui me sont faits me confirment chaque jour dans la certitude qu'il n'existe point sur les galères de meilleurs rameurs que les Marocains. Ne croyez pas que je vais m'en séparer et affaiblir ma flotte pour satisfaire les souhaits d'un prince sauvage.
Mais, sire, Moulay Ismail est un souverain puissant. Et quiconque a voyagé au Maroc s'aperçoit que ce n'est point un pays sauvage.
M'apporteriez-vous un démenti, capitaine?
Un démenti? Oh, sire, je donnerais ma vie plutôt que de commettre un tel crime.
L'empereur du Maroc prie un faux dieu. Et vous devez savoir que tous ceux qui ne sont point de la sainte religion, catholique, apostolique et romaine, sont des sauvages. À vous revoir, monsieur.
Sire. Puis-je avoir l'audace de poser une question à votre majesté?
Mais je vous écoute.
Le fils de l'adjoint de l'ambassadeur est précisément aux galères de Marseille. Messieurs de Croissy et de Seignelay ont promis sa libération à l'ambassadeur.
Très bien qu'on le libère. Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais lui seul. Il faut d'ailleurs croire qu'un prince de haute naissance ne doit pas faire un bien bon rameur. Eh bien, mon ami Mohamed, me rapportes-tu un bon traité de Paris?
J'ai été admirablement reçu, Seigneur.
Comment est cet empereur des Francs?
Il est superbe à voir, et sa puissance en son royaume égale presque la tienne.
C'est bien ce que m'avait dit mon neveu. Et ce palais de Versailles dont tu m'as parlé dans ta lettre?
C'est une pure merveille.
Aussi beau que mon palais de Meknès?
Presque.
J'ai reçu une lettre du roi Louis XIV. Il se dit mon très cher et bon ami et déclare qu'il est très satisfait de ta bonne conduite. Il me dit qu'il donne ordre à ses vaisseaux de ne plus attaquer les nôtres. J'ai donc donné le même ordre à nos vaisseaux. Je suis étonné que tu n'aies pas de traité à me montrer.
À la vérité, Seigneur...
À la vérité?
L'empereur des Francs va t'envoyer un ambassadeur et il te portera lui-même le traité.
Eh bien, je le recevrai. Mais tu ne me parles point de nos frères prisonniers sur les galères des Francs. C'est pour cela que je t'ai envoyé à Paris. Je ne puis tolérer que mes sujets encourent 1000 morts en ramant comme des bêtes sur ces galères. J'ai reçu une lettre que les galériens de Marseille sont parvenus à me faire passer clandestinement. Lis-la toi-même.
J'obéis, Seigneur. Voici donc ce qu'ils écrivent. Non, sire, jamais on a exercé de si grands tourments dans les enfers que ces chiens impitoyables exercent sur nous. La faim, la nudité, les injures exécrables contre notre sainte religion et contre notre prophète, le mépris pour notre roi et notre nation, les coups de bâton, les chaînes pesant plus de 100 livres et l'excessive peine de ramer ne sont que les tourments ordinaires que nous souffrons. Nous avons ouï dire que c'est pour l'amour de nous que votre majesté a envoyé un ambassadeur à leur roi. Mais ces chiens n'eurent pas plutôt appris son arrivée qu'ils nous envoyèrent tous en mer sur les galères, excepté les vieillards et ceux qui n'avaient pas la force de ramer, qu'ils mirent encore en prison dans une maison éloignée afin qu'il n'eût point de nos nouvelles. Ils l'ont toujours amusé de paroles, en le trompant jusqu'à ce qu'il fût parti pour s'en retourner auprès de votre majesté.
C'est vrai?
Oui, Seigneur.
Tu n'as vu aucun de nos frères à Marseille?
Aucun.
Alors tu es un imbécile.
Ils se sont joués de moi.
Un imbécile et un incapable.
Ôte-moi la vie si tu le crois juste, Seigneur.
J'attends l'ambassadeur français dont tu me parles. J'aviserai ensuite en ce qui concerne ton sort.
Ma vie est entre vos mains, monsieur de Saint-Amand.
Comment cela?
Je n'ai pas osé dire à mon maître, le sultan, que j'avais avec moi le texte du traité. Il m'aurait fessé en se tenant de couper la tête.
Diable! Et pourquoi cela?
Parce que M. Colbert de Croissy et M. de Senglet m'ont, comme vous dites, je crois, roulé dans la farine. Le traité est au seul avantage de votre maître et nullement du mien. Puisque vous êtes l'ambassadeur qu'envoie l'empereur des Francs à l'empereur du Maroc, je vous demande de parler des engagements que j'ai dû souscrire comme s'ils étaient encore à négocier.
Vous me demandez beaucoup, Seigneur Thémy.
Tout est question de traduction. Si vous avertissez votre interprète, il fera à mon maître de tels compliments qu'il en sera content et que sa bienveillance me reviendra.
J'essaierai, Seigneur Thémy. J'essaierai. Mais avouez que vous me confiez là une tâche bien difficile.
Je vous en serai reconnaissant toute ma vie.
Arrivé le 10 décembre 1682 en vue du camp de Sa Majesté l'Empereur du Maroc. On vint me saluer et on me conduisit, moi et ma suite, sur une hauteur d'où je pouvais voir commodément le roi. C'était le jour de leur Pâques. Ils solennisaient par leurs exercices habituels, c'est-à-dire en se livrant à des courses effrénées. Le roi montait un très beau cheval bai. Son habit était de couleur brune, et il portait un fusil dont il tira plusieurs coups en se mêlant à ses gens. Il était fort adroit, et il parut extrêmement ferme à cheval. Ce divertissement dura 2 heures. Deux caïds vinrent me dire que le roi ne me donnerait pas audience ce jour-là à cause de l'Aïd al-Kibir. Ensuite, ils me menèrent, moi et ma suite, dans un endroit où nous trouvâmes nos tentes dressées et nos bagages arrivés. Le lendemain, conduit par le caïd Ben Hadou, nous nous sommes présentés au quartier du roi. Nous trouvâmes Moulay Ismail assis sur un tapis de Perse et ayant derrière lui un pavillon de toile peinte qui lui servait de dais. Nous le saluâmes en nous inclinant et en nous découvrant.
C'est très bien, couvrez-vous, messieurs. Soyez les bienvenus. Je remercie Dieu de ce que vous soyez arrivés en bonne santé et de ce que ma religion soit de ne croire qu'en un seul Dieu créateur de toutes choses.
Dans la mienne, on ne croit aussi qu'en un seul Dieu.
Ce n'est pas pour discuter, mais je vous en parle comme un bon ami qui est toujours obligé de conseiller le bien à ceux qu'il aime.
Je remercie votre majesté de son conseil, et je la prie d'agréer que je n'en profite à ce point.
Je reconnais que vous avez beaucoup d'esprit.
Voici les lettres de mon maître, le roi de France, qui m'accrédite auprès de votre majesté.
Fort bien. Nous allons donc négocier. Voici l'Al-Qaïd Ali qui sera mon négociateur.
Pardonnez-moi, sire, mais je suis ici pour la ratification de la paix.
Thémy!
Oui, seigneur.
Il s'agit seulement de ratifier. Tu m'as dit que l'on négocierait.
Non, mais c'est une question de traduction, seigneur, une simple question de traduction.
Je l'espère. Quant à vous, monsieur l'ambassadeur, je veux que vous connaissiez ma position sur les conditions d'une paix définitive. J'accorderai à votre roi tout ce qu'il me demandera pourvu qu'il se fasse un échange des esclaves tête pour tête et un Français contre un mort.
Sire, il faut que votre majesté sache que je n'ai aucun pouvoir pour modifier ce qui a été décidé à Saint-Germain.
Rien n'a été décidé tant que je n'ai pas fait connaître ma volonté. Allez, monsieur l'ambassadeur, Et sachez que personne, jusqu'ici, n'a fait plier Moulay Ismail.
De retour, cher Saint-Amand.
Après avoir accompli au Maroc la mission la plus difficile de mon existence, cher Labarre.
Oh, croyez que j'en suis convaincu.
La paix était à notre portée et notre tranquillité sur mer. Non, si j'avais pu seulement amener avec moi 20 Marocains délivrés des galères.
Mais le fils d'Ali Manino ne vous accompagnait-il pas?
Si. Je pus le faire conduire au sultan qui s'en est trouvé quelque temps apaisé. Mais il faut convenir que sa position est logique autant qu'elle est claire. Il demande l'échange des esclaves tête pour tête et un pour un. Après quoi, il ratifiera le traité.
Ah, je ne comprendrai jamais pourquoi on ne veut pas consentir à une demande qui, après tout, est honnête.
Voyons, voyons, cher Labarre. Oubliez-vous ce que vous a dit Sa Majesté elle-même. Les Marocains sont les meilleurs rameurs qui soient sur nos galères.
Ainsi s'achevait la tentative de paix éternelle entre la France et le Maroc. Par un malentendu. Il est assez extraordinaire d'avoir à constater que le souverain du Maroc ignora jusqu'à l'existence du traité du 29 janvier 1682 signé à Saint-Germain par Croissy, Seignelay et Thémines. Il en était resté au traité conclu avec Labarre le 13 juillet 1681. Et ce traité, Louis XIV l'avait désavoué. Comme l'écrit M. Younes Nekrouf, le roi très chrétien et le shérif allaient s'accuser l'un l'autre de mauvaise foi, de duplicité et de manquement à la parole donnée. Celui qui regretta le plus l'échec de la négociation, ce fut pourtant Moulay Ismail. À travers tout ce qui lui avait été dit de la grandeur de Louis XIV, il lui conservait au fond de son cœur une admiration qu'il n'éprouva pour aucun autre, et à cause de cette admiration, de l'indulgence à son égard. Il le prouva dans une offre fort extraordinaire, qu'il lui fit bien des années plus tard. C'était le temps de la fin du règne du roi Soleil. Après les victoires étaient venus les échecs, et le royaume de France se trouvait en grand péril. Moulay Ismail, qui était beaucoup mieux informé qu'on ne le croyait à Versailles, eut vent des difficultés de Louis XIV. Et il lui écrivit, le 22 juillet 1709, la plus incroyable des lettres.
Au Seigneur Louis XIV, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, salut et accroissement de prospérité. Il nous touche de droit de faire attention à tout ce qui touche la maison ottomane, à cause du zèle avec lequel elle sert et assiste en notre saint temple de la Mecque, la cause de la défense de l'islam, contre ses ennemis. Or, voyant l'opposition si grande qu'a toujours eue la dite maison ottomane avec la maison autrichienne, et voyant encore qu'au milieu de tant de guerres dans lesquelles vous êtes engagés, vous conservez toujours avec les Ottomans une bonne paix et amitié, nous vous écrivons pour vous faire savoir que si vous aviez besoin d'un secours de troupes pour vous défendre contre les Autrichiens, je vous l'enverrai tant en cavalerie qu'en infanterie, parce que nous considérons que vous êtes meilleurs voisins que les Autrichiens et qu'il y a une meilleure correspondance avec vous qu'avec eux. Vous nous répondrez et on vous donnera entière satisfaction.
Louis XIV mit un an à répondre. Il faut dire qu'entre-temps, il y avait eu les 37 000 tués de Villars à Malplaquet. Il eût été trop beau que le roi Soleil accepta l'offre du souverain marocain. Mais il l'en remercia en lui laissant entendre que c'était surtout sur Dieu qu'il comptait.
Très haut, très excellent et très puissant prince, notre très cher et bon ami, l'offre que vous nous avez faite est encore une nouvelle raison pour nous de souhaiter que Dieu, auteur de toutes sortes de biens, répande sur votre majesté ses lumières et ses bienfaits. C'est de lui que nous attendons uniquement les secours nécessaires pour finir heureusement la guerre que la jalousie des princes, nos voisins, a excitée contre nous et contre le roi d'Espagne,
notre petit-fils. Nous souhaitons qu'il plaise à Dieu de conserver pour de nombreuses années votre majesté avec fin heureuse. Écrit en notre palais impérial de Versailles le 3 juillet 1710. Louis.
Tel fut le dernier épisode d'une amitié dont le roi de France n'avait pas su comprendre la portée et qui fut pour le souverain marocain un rêve en forme de mirage. Oui, un rêve en forme de mirage. Et pour revenir sur ce souverain marocain, Moulay Ismail, nous avons demandé à M. Amin Mahalouf de nous rejoindre, André Castelot, Jean-François Cap et moi-même, au micro de la Tribune de l'Histoire. M. Amin Mahalouf est déjà venu à la Tribune de l'Histoire pour parler d'un ouvrage tout à fait remarquable sur les croisades vues par les Arabes. Et depuis, il a connu un immense succès avec son ouvrage « Léon l'Africain ». Et aujourd'hui, il vient de publier un nouveau roman, Samarcande, publié chez Lattès, qui vient d'obtenir presque après sa sortie, ce qui est exceptionnel, le prix des maisons de presse.
Alors, un prix considérable.
C'est un prix considérable, qui est une, pratiquement un certificat de succès assuré.
Oui.
Amin Mahalouf, vous connaissez admirablement la civilisation arabe, vous le prouvez dans tous vos ouvrages. Alors, je crois qu'il serait intéressant... Nous avons évoqué Moulay Ismail dans ses rapports avec Louis XIV, mais peut-être de faire le point sur ce souverain. Aujourd'hui encore, dans le monde arabe, quelle place occupe Moulay Ismail?
C'est un souverain d'une grande modernité. Il a rêvé, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, de bâtir un royaume qui puisse entrer dans le concert des nations. Et il y a quelque chose de pathétique dans son rapport avec Louis XIV. Il avait envie, en quelque sorte, à travers cette amitié qu'il espérait, de trouver une place, une reconnaissance quelconque de la part des souverains européens. Et il pensait y avoir droit, parce qu'il avait unifié son pays, il marchait sur la voie de la modernité. Et là, il y a eu une profonde incompréhension, on l'a laissé de côté. L'époque de Moulay Ismail arrivait au moment du début du déclin de l'Empire ottoman. Lui-même a su, et là c'est un cas quasiment unique dans cette partie du monde, il a su garder son indépendance à l'égard des Ottomans. L'Empire ottoman s'est arrêté aux frontières du Maroc.
Mais il est réellement indépendant ou il y a tout de même un lien de vassalité vis-à-vis de...
Il y a un lien, je dirais, purement formel. C'est-à-dire qu'il reconnaît, comme il apparaît dans les lettres...
Et religieux laïque, monsieur
Non, essentiellement laïque.
Essentiellement laïque.
Mais lié évidemment à l'appartenance à la même religion. Mais il reconnaît une certaine préséance au souverain, au grand souverain ottoman, qui est quand même le maître de l'ensemble du monde musulman, mais aucune véritable vassalité. Donc, il le mentionne dans ses lettres, il dit à Louis XIV, vous êtes quand même un allié du grand souverain musulman qui est l'empereur ottoman, mais en même temps, il tient à maintenir son autonomie. Il tient à prouver que lui est sultan au même titre que le sultan ottoman.
Au fond, il reconnaît plus le calife que le sultan, si je comprends bien.
Mais lui-même est également calife.
Lui-même
calife. Donc, il ne reconnaît pas de suzeraineté, il ne reconnaît pas de suprématie, mais il y a une volonté quand même de ne pas se montrer comme rival du sultan ottoman, qui est quand même le maître de l'ensemble.
Bien
du
sûr.
Monde musulman et de la moitié de l'Europe, puisqu'il est encore aux portes de Vienne.
Bien sûr, je voudrais vous poser une question, parce que je suis un peu plus sur ma soif, de savoir comment ça s'est terminé. Est-ce que les esclaves et chrétiens et marocains sont restés jusqu'à leur mort prisonniers, ou est-ce qu'il y a eu finalement un échange moyen une rançon?
Les esclaves ont été libérés en partie, je ne suis pas sûr que les esclaves
marocains qu'ils ne soient restés.
Le traité permettait, n'est-ce pas, de racheter Du côté français, on pouvait racheter les Français du Maroc et le traité était muet par rapport à un rachat des Marocains. Ce qui fait qu'en effet, l'ambassadeur du shérif, l'ambassadeur de Ismaël, s'est laissé en quelque sorte, disons pour être très très courtois, qu'il s'est laissé impressionner. Pas par Colbert de Croissy et Seignelay, il ne connaissait pas la langue, l'interprète était plutôt du côté français, et mon Dieu, il s'est laissé éblouir. Je pense que c'est l'explication, parce qu'il n'a pas réussi dans sa mission, et la colère de Moulay Ismaël se comprend, mais on l'a aussi trompé, Moulay Ismaël, parce que cette association de l'ambassadeur français Saint-Amand qui veut arranger les choses, d'ailleurs c'est très charmant, il veut arranger les choses de ce pauvre ambassadeur marocain, il ne veut pas qu'on lui coupe le cou. Alors on va raconter des tas de choses à Moulay Ismaël, ce qui fait que, et cela monsieur Younes Nekouf dans son ouvrage sur les rapports de Moulay Ismaël et de Louis XIV le signale très bien, nous avons deux souverains dont aucun n'assure réellement ce qu'avaient signé ses délégués, ce qui est assez surprenant.
Est-ce que le roi actuel du Maroc descend de Moulay Ismaël?
Oui, c'est la même.
Même c'est la même famille.
Même dynastie.
Oui, c'est la même. Il descend plus du prophète, de toute façon.
Oui. Il y a un élément, à mon avis, intéressant, c'est que par rapport au souverain marocain à l'époque, la France est la puissance européenne qui est la moins hostile au monde musulman. Parce que à l'époque, l'autre puissance, et cela depuis l'époque de Charles Quint, c'est la maison d'Autriche, qui fait face au monde musulman aussi bien à l'est, c'est-à-dire du côté de l'Autriche, et du côté de l'Autriche, et à l'ouest, c'est-à-dire en Espagne, et puis juste après la reconquête de l'Espagne, il y a eu la traversée de la Méditerranée, l'occupation d'une grande partie des villes d'Afrique du Nord par les Espagnols.
Et
la France apparaît à l'époque comme l'ennemi de la maison d'Autriche, et par ce fait, l'allié privilégié des pays musulmans.
Exactement la même chose du temps de François Ier.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, les corsaires barbaresques faisaient en réalité partie à un moment donné de la flotte française, puisque c'était eux qui affrontaient la flotte de Charles Quint.
Et oui.
Mais quand Moulay Ismaël écrit à Louis XIV pour lui suggérer de se faire musulman, quel peut être son état d'esprit? Est-ce qu'il croit que c'est possible, ou bien est-ce que c'est une vue de l'esprit, une formule qu'il croit obligatoire? Pensez-vous à sa sincérité, en l'occurrence?
Je pense que c'est beaucoup plus ce que je dirais pour la consommation locale. Je pense qu'à l'époque, on se sent contraint, quand on s'adresse à un souverain qui appartient à une autre religion, de lui faire cette proposition, on ne se fait pas d'illusions. Il y a de la naïveté, il y a surtout le poids des habitudes. C'est une habitude depuis très longtemps. Quand on envoie des lettres à des souverains d'une autre religion,
on l'a fait pour le roi d'Angleterre. Moulay Ismaël ne l'a pas fait seulement pour le roi de France, mais pour le roi d'Angleterre.
Oui, on le faisait systématiquement, mais on n'insistait pas trop quand même.
et cette proposition extraordinaire, n'est-ce pas, qui date des astres de Louis XIV, de lui apporter l'aide des armées marocaines, et quel sens peut-on lui donner?
Là, je pense que c'était sincère. Je pense qu'il y a des précédents. Par exemple, François Ier a reçu une offre des Ottomans pour lui envoyer des troupes au moment de Pavie. Il a reçu des messagers, lui
disant... Et même de le délivrer, il était prisonnier à Petit-Quétol.
Absolument.
Et même de le délivrer, parce qu'il est délivré depuis Petit-Quétol, donc avant qu'il soit transféré, n'est-ce pas?
C'est cela. Mais pensez-vous que s'il n'y a pas eu tous ces malentendus, si ce traité avait été suivi des faits plus précis, est-ce que vous pensez que l'histoire aurait pu en être changée?
C'est toujours difficile de refaire l'histoire, mais je pense effectivement, quand le Maroc de Moulay Ismaël et la France de l'époque, il y avait un fossé moins profond qu'il n'y en a eu plus tard, quand ils se sont retrouvés au XIXe siècle. Je pense que si à l'époque, on avait su établir des rapports plus étroits, si on avait pu faire profiter le Maroc de l'évolution économique, scientifique de l'Europe occidentale, je pense qu'il y a des choses qui auraient changé. Et là, malheureusement, il y a un rendez-vous qui a été manqué. Le Maroc n'a pas pu rester en phase avec l'Europe occidentale.
Oui, c'est évidemment une occasion perdue, mais je crois que ce ne sera pas une occasion perdue pour nos auditeurs de lire le dernier livre d'Amin Maalouf, son dernier roman, Samarcande, qui vient de paraître chez La Teste, après son grand succès, son immense succès, Léon l'Africain.